magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure du magazine qui vous dit tout de l'actualité des Nations Unies. Tout de suite, les titres. La brigade d'intervention au sein de la MONUSCO a pour mission de traquer et de mettre hors d'état de nuire les forces négatives dans l'est de la RDC. Toutefois, pour l'ONU, cette option n'exclut pas des concertations entre parties pour arriver à une paix durable. Une précision des porte-paroles de la MONUSCO qui s'exprime dans ce magazine. Rétablir et préserver de façon durable les infrastructures routières nécessaires à la relance socio-économique, tel est l'objectif global du projet Route dans lequel est impliquée la Banque mondiale. Ce projet couvre environ 3000 km de route. Dans cette édition, nous aurons comme invité un expert de la Banque mondiale. Il nous en parlera avec plus de détails. Enfin, prêtez votre jambe pour une RDC sans mines ni restes explosifs de guerre. C'est le thème retenu en RDC pour la journée internationale pour la sensibilisation aux mines antipersonnelles et à l'assistance à la lutte anti-mines le 4 avril. À cette occasion, Aurélie Fabry de l'UNMAC va décrypter pour nous le concept d'éminage humanitaire auquel se consacre son agence en RDC depuis une dizaine d'années.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La future brigade d'intervention de la MONUSCO mise en place par le Conseil de sécurité, il en a encore été question mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. La problématique de son mode opératoire a suscité l'intérêt de nombreux journalistes qui avaient pris d'assaut la salle de conférence de la MONUSCO à Kinshasa. Honoré Missenga y était aussi. Il nous en parle dans ce reportage.
Au nombre des questions posées, la future brigade d'intervention sera-t-elle sur la défensive ou prendra-t-elle l'initiative de traquer les groupes armés? Le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Cette brigade d'intervention aura un mandat de renforcement de la sécurité au Congo. Elle aura pour mission de rechercher, de traquer et de désarmer, mettre hors d'état de nuire tous ces éléments armés qui ont été qualifiés de forces négatives. Donc il y a toute une procédure pour essayer de définir les cibles et elle n'attendra pas que des exactions soient commises. Elle ira à la recherche des groupes armés en vue de les désarmer.
Autre préoccupation de la presse. Quels seront les rapports de travail entre cette brigade et les forces gouvernementales congolaises? Une fois encore, l'officier supérieur de la MONUSCO.
Concernant les rapports de travail qui pourraient exister entre les FRDC et la brigade d'intervention, mais il est évident que notre présence ici est d'abord pour soutenir le gouvernement congolais. Et si nous sommes d'accord que cette brigade d'intervention fait partie intégrante de la MONUSCO, évidemment qu'elle sera appelée, comme l'a clairement stipulé d'ailleurs le mandat de la 2098, que cette brigade travaillera de concert avec les FRDC ou mènera des opérations unilatérales. Le but étant d'éradiquer, de désarmer les groupes armés et d'apporter un peu plus de sécurité et de paix dans la province du Nord-Kivu.
Une précision tout de même. En dépit de l'existence d'une brigade d'intervention sur la MONUSCO, la résolution pacifique des conflits est la voie idéale pour une paix durable. Le porte-parole civil Manoj Mounoubaï le souligne à son tour.
Beaucoup tentent à croire que la 2098 est une résolution va-t-en-guerre. On vient pour faire la guerre. L'utilisation des armes pour les Nations Unies, c'est toujours le dernier recours. En même temps que la décision a été prise d'utiliser les armes contre les groupes armés, on n'exclut toujours pas qu'il y ait des concertations politiques au sein des partis concernés pour arriver à une paix durable en République démocratique du Congo. Il revient maintenant aux partis intéressés, aux Congolais eux-mêmes, d'en définir le contour et le contenu. Ce ne sera pas aux Nations Unies.
Le Conseil de sécurité a adopté le 31 mars 2013 à l'unanimité la résolution 2098 prorogeant jusqu'au 31 mars 2014 le mandat de la MONUSCO et à travers cette résolution, l'organe exécutif de l'ONU a décidé le déploiement à titre exceptionnel et sans créer de précédent d'une brigade d'intervention chargée de neutraliser et de désarmer les groupes armés menaçant l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'est de la RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La communauté mondiale célèbre le 4 avril de chaque année la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines antipersonnelles et à l'assistance à la lutte anti-mines. Dans cette émission, nous recevons Aurélie Fabry de l'UNMAC, Centre de coordination des Nations Unies pour la lutte anti-mines en RDC, une section de la MONUSCO. Aurélie Fabry est spécialiste en éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre au sein de cette section. Elle répond aux questions de Nicole Ngaka dans cette rubrique.
Aurélie Fabry, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, en quoi consiste exactement l'opération anti-mine ?
Bon, alors la lutte anti-mine ne concerne pas uniquement le fait de déminer et de détruire des restes explosifs de guerre ou des mines. Elle est constituée de 5 piliers, donc qui sont le plaidoyer, donc pour la cause de la lutte anti-mine, l'éducation au risque des mines et restes d'explosifs de guerre, l'assistance aux victimes de mines aux restes explosifs de guerre, la destruction des stocks de munitions et le déminage à proprement parler.
Tout à l'heure, on a eu à évoquer avec vous le déminage humanitaire. Qu'est-ce que ça implique exactement, le déminage humanitaire ?
Le but du déminage humanitaire, c'est de dégager en fait des terres pour permettre aux civils de rejoindre leur domicile et de reprendre leur activité quotidienne sans subir la menace de mines. Et cette opération, donc, le déminage humanitaire, ça implique d'éliminer toutes les mines et restes non explosés de guerre qui se trouvent dans les zones où la population vit pour garantir la sécurité de cette même population. Ces zones sont soigneusement vérifiées de manière à pouvoir dire avec certitude que les terrains sont sûrs et que la population peut y accéder et la travailler sans aucun problème. Un but aussi du déminage humanitaire, c'est de rétablir la paix et la sécurité au niveau des communautés.
Ça se fait déjà ici au Congo ?
Oui.
Il y a déjà eu des endroits où il y a eu des cas de déminage humanitaire ?
UNMAC fait du déminage humanitaire.
Où exactement, jusque-là ?
Partout dans le pays. Bon, évidemment, il y a des zones qui sont plus contaminées, mm-hmm. donc par des restes explosifs de guerre notamment et des mines.
Mm-hmm.
Mais au niveau des restes explosifs de guerre, on peut parler d'une contamination à l'échelle nationale.
Parce qu'on sait qu'à certains coins du pays, il y a eu des problèmes de conflits, notamment au nord Kivu, au sud Kivu. Est-ce que UNMAG a eu à opérer de ce côté-là, à pratiquer ce que vous appelez le déminage humanitaire ?
Oui, bien sûr. Notamment lorsque le M23 a pris la ville de Goma, on a pratiqué donc le déminage autour de l'aéroport pour permettre la reprise des vols le plus vite possible.
En quoi est-il le déminage humanitaire est-il différent du déminage militaire ?
Parce que ça ne poursuit pas les mêmes buts. Je viens d'expliquer donc le déminage humanitaire. Pour ce qui est du déminage militaire, là, c'est un procédé qui est entrepris par des soldats pour dégager une voie sûre, pour leur permettre donc de progresser au cours d'un conflit. Donc ça relève plus de la tactique militaire ou de la stratégie militaire. Et ça se limite à l'élimination donc des mines qui bloquent les voies stratégiques nécessaires à la progression ou à la retraite des soldats qui sont en guerre.
Et est-ce qu'à votre niveau, ce type d'opération, vous pratiquez ça au niveau de UNMAC ?
Non, UNMAC travaille donc que dans le déminage humanitaire et pas dans le déminage militaire.
Voilà, donc c'est tout à fait différent hein, pour aider ceux qui nous suivent à travers le pays à comprendre le sens même des mots. Alors finalement, quelles sont les différentes étapes du déminage humanitaire ? Autrement dit, comment on détecte la présence des mines dans une zone et comment procède-t-on ensuite au déminage ?
Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'enquête préalable ou la collecte d'informations, donc qui est liée aux mines, aux restes explosifs de guerre. Là, c'est vraiment des recueils donc d'études auprès donc des leaders communautaires, des communautés, des autorités locales, et aussi une évaluation de l'impact socio-économique de la contamination par mine.
Donc vous allez vers la population.
Oui, bien sûr, parce que c'est la première source d'information, les autorités locales également.
Ok.
Puis après, on a donc les études techniques qui, elles, vont identifier les champs de mines et qui vont fournir des cartes détaillées, donc des zones. Bon, après, donc, nous avons la délimitation des champs de mines avec donc un système de marquage. Donc, il y a différents types de marquage.
Et ça, vous le faites en collaboration avec la population ?
Pour le marquage de circonstances improvisées, là, on n'est même pas là. C'est la population elle-même qui marque parce qu'elle a été sensibilisée souvent.
Elle sait à peu près où se trouve.
Voilà. Et donc, c'est elle-même.
Les mines, en fait.
Voilà. Elle-même, oui. Quand ils vont travailler ou quand ils se déplacent, quand ils travaillent la terre, ce sont souvent les premiers à tomber sur une mine ou un reste explosif de guerre.
Tout à fait.
Et donc, ils nous le rapportent. Mais dans la plupart du temps, c'est la population elle-même qui marque avec. Elles utilisent les signes que leur communauté d'origine
comprennent. Dans les cas, ce sont des bouts de bois.
deux bouts de bois en forme de croix, ou alors ça peut être un tas d'herbes nouées, un nœud d'herbe. Ça peut être l'engin explosif, par exemple, peut être entouré avec des pierres. Ça peut être aussi des petits tas de pierres.
Nous savons que l'année dernière, Aurélie Fabry, le thème de la journée était « Prêtez votre jambe ». Et cette année, quel est le thème exactement pour l'année 2013?
Cette année, il faut savoir que cette campagne s'inscrit dans la campagne pour interdire les mines, qui est une campagne menée au niveau mondial. Donc le thème est de nouveau « Prêtez votre jambe ». Mais cette année, donc en collaboration donc avec le Centre congolais de la lutte anti-mine, on a décidé du thème « Prêtez votre jambe pour une RDC sans mines ni restes explosifs de guerre ».
Pour ceux-là qui nous suivent à travers le pays, on rappelle que vous êtes la spécialiste en éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre, Aurélie Fabry. Depuis l'existence de UNMAC, combien de zones ont déjà été détectées en RDC et combien de mines et autres engins non explosés ont pu être détruits?
On parle depuis 2002. De 2 223 594 engins inclus mines, engins non explosés et les sous-munitions.
Et c'était où exactement?
Donc nord, sud Kivu, le Katanga, les Kasaï occidentales et orientales, Équateur aussi, même la province orientale.
Est-ce que le personnel de UNMAC, dans le cadre de l'opération de déminage, est-ce qu'il est essentiellement... sont des militaires qui font ce travail?
On travaille plus avec des organisations internationales. Il y a beaucoup de staff, évidemment, congolais. Et au niveau du staff de UNMAC, le staff de UNMAC est composé en majorité de civils, même si on compte quand même quelques militaires ou ex-militaires.
Donc il faut avoir une certaine formation militaire quand même pour arriver à pratiquer l'opération de déminage.
Oui. On ne s'approvise pas des mineurs, c'est ce qu'on dit toujours en éducation risque des mines.
D'après vous, combien de gens sont morts du fait des mines ou autres engins non explosés ici en RDC? Vous avez eu à avoir une idée sur les statistiques?
Depuis 2002, dans notre base de données, on compte 2458 victimes. Donc inclut donc des personnes qui ont été blessées, mais aussi des personnes qui sont décédées.
Quel est le message que vous donneriez aux Congolais, à tous ces auditeurs qui nous suivent à travers le pays, pour à l'avenir faire peut-être un peu plus attention?
Faire attention, mais du moins s'informer. Donc, informez-vous et informez les autres, ça c'est vraiment le message qu'on délivre. Surtout si vous n'êtes pas de la zone, ça c'est plus particulièrement pour les personnes réfugiées. Quand vous n'habitez pas la zone, vous n'êtes pas originaire de la zone, informez-vous auprès des communautés. Qui résident des divers dangers, elles sont au courant, elles savent où se trouvent les principaux dangers et souvent elles ont été aussi éduquées en matière de risque.
Aurélie Fabry, nous vous remercions sincèrement d'avoir été des nôtres et nous rappelons que vous êtes spécialiste en éducation au risque des mines et restes explosifs de guerre. Merci encore et à la prochaine.
Merci à vous.
Nos nouvelles en bref, célébration aujourd'hui 7 avril de la Journée mondiale de la santé. L'OMS appelle à redoubler d'efforts pour prévenir et combattre l'hypertension artérielle. Elle estime qu'au niveau mondial, plus d'un adulte sur trois est hypertendu à partir de l'âge de 25 ans et lance à cet effet une recommandation. Mesurez votre tension artérielle pour rester en bonne santé et surtout, moi je vous dis, n'oubliez pas l'exercice physique. 1 300 000 dollars américains, c'est là un financement du Japon pour soutenir le secteur de l'éducation dans les camps de déplacés de Kanyarushinya, Troyes et du lac Fer à Goma. Nous sommes ici dans la province du Nord Kivu. Cela avec l'appui de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit d'un projet d'urgence dont la signature du plan a eu lieu mercredi 3 avril à Kinshasa entre le ministère congolais de la coopération internationale et le bureau de l'UNESCO RDC. Enfin, Zainab Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des violences sexuelles, a conclu au terme de sa visite de 10 jours en RDC un accord avec le gouvernement congolais pour prévenir et aborder le problème des violences sexuelles dans ce pays. Un communiqué signé conjointement énumère des engagements respectifs des deux parties à cet effet.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Que fait concrètement la Banque mondiale depuis la reprise de la coopération avec la RDC en 2001? Une journée porte ouverte aux médias a été organisée mardi 2 avril dernier à Kinshasa pour leur permettre de voir les actions menées par cette institution en appui au gouvernement congolais dans plusieurs secteurs, y compris celui des routes. Notre invité du jour, Alexandre Dossou, expert de la Banque mondiale RDC en transport, répond aux questions d'Honoré Missenga sur le pro-route, projet route, dans lequel cette institution de Bretton Woods est entièrement impliquée.
Nous sommes ici à la Banque mondiale pour une journée porte ouverte pour les médias. Je lis ici la Banque mondiale en action en RDC. Qu'est-ce que la Banque mondiale fait en République démocratique du Congo en matière de route?
Disons que la banque a quand même eu, avant le projet pour route, dont tout le monde entend parler, qui est en cours maintenant, la banque a quand même eu à travailler sur Kinshasa-Matadi et à travailler également sur la tronçon de la RNE, les deux ponts, par exemple le pont du Cinquantenaire et le pont sur la Louvois, ce sont des financements de la banque. La banque a également ouvert Kisangani-Beni et a travaillé sur un certain nombre de choses. Actuellement, nous avons le pro-route qui est en cours et le pro-route, il couvre environ 2176 km que nous allons rouvrir parce que la route qui était fermée et nous allons garantir l'entretien de près de 3000 km.
À quel niveau se trouve ce pro-route?
Le pro-route a démarré en 2008. On a eu quelques problèmes de démarrage, mais à la date d'aujourd'hui, on peut dire que nous avons ouvert pratiquement 500 km. On a ouvert une partie dans le nord Katanga, de Kalemi jusqu'à la porte des deux provinces, Katanga et sud de Kivu. Également, nous avons ouvert de Kisangani. Aujourd'hui, Bouta est accessible par la route. Et nous sommes au-delà de Bouta, nous allons vers Bundoki, donc à la frontière entre la province orientale et la province de l'Équateur. Également, dans Pro-Route, nous allons en fait lier le sud du Katanga. On va partir de Kasomeno entre Lumumbashi et Kasenga jusqu'à aller à Uvira. Tout ça va être ouvert. Et nous allons ouvrir également de Doulia vers Bondo. En gros, ça fait à peu près les 2200 km que nous allons ouvrir.
Est-ce que vous pouvez parler un peu du financement de ce projet?
Le projet, dans sa forme actuelle, il est financé par deux sources. Il y a la Banque mondiale et il y a la coopération britannique, DFID. À la date d'aujourd'hui, il y a eu deux phases dans le financement, mais globalement, le financement est à peu près 50% aujourd'hui. Et nous avons d'ailleurs sur la dernière partie, puisque nous avons une deuxième phase du financement qui a été mise en place en 2011 et qui est en cours, nous avons une participation du fonds routier également, qui va nous permettre de mieux intervenir sur l'axe de Kisangani-Beni. Une chose qui est également importante, c'est que l'axe Kisangani-Beni avait déjà été ouvert, mais tout le monde a vu qu'il avait commencé à se dégrader et en plus il y avait les ponts qui n'avaient pas été traités. Nous le reprenons dans le cadre du plan route et nous allons refaire tous les ponts. Et là, nous allons mettre un mécanisme d'entretien dessus, c'est un contrat qui est signé pour 4 ans. Il a déjà été signé, il est en phase de démarrage.
Et la durée du projet?
Le projet finit en 2016. Il était supposé s'arrêter en 2013, mais comme en 2011, on a rajouté de l'argent qui faisait à peu près 100% de ce qu'on avait avant. Donc maintenant, il va finir en 2016.
Oui, quand on rajoute l'argent, c'est qu'on ajoute aussi le kilométrage.
Oui, en fait, c'est parce que dans la première phase, on avait 123 millions et on avait 1800 kilomètres à traiter. Et c'est ça qui faisait Kasomeno jusqu'à Uvira et Kisangani jusqu'à Bundoki. Mais quand on a rajouté de l'argent, à peu près la même chose, 125 millions, on a pris Akula, Gemena jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine et on a repris Kisangani-Beni pour pouvoir refaire tous les ponts qu'il y a dessus. Donc voilà ce que ça a rajouté et c'est ça qui nous a amené à 2176 km à rouvrir et 2917 à entretenir.
Donc le projet ne concerne que, si je vois bien sur la carte, l'Est, le Sud, pas le Centre et l'Ouest.
L'Ouest, un peu quand même, puisqu'on a Akula jusqu'à Zongo, Akula Gemena, donc au nord de l'Équateur. Ce qui est important à savoir, c'est que avec ce projet, faisant Kisangani à Bundoki, en faisant Akula jusqu'à Zongo, on vient ensemble avec ce que l'Union européenne est en train de faire dans la zone de Bumba et de Lissa. On a alors, depuis la République centrafricaine à l'ouest, jusqu'à l'est, l'Ouganda et d'autres, qui sont ouverts. C'est ça qui est important. Et ensuite, on descend maintenant de l'est jusqu'au sud du Katanga. Ça, c'est deux grandes liaisons qui sont importantes. En fait, le projet s'est positionné sur 9000 km des routes hautement prioritaires. Nous ne sommes qu'à 2000 km. C'est vrai, il y a les autres bailleurs de fonds aussi qui sont en cours sur d'autres axes. Mais tant qu'il y a encore quelque chose qui existe, je crois que nous avons l'espoir de pouvoir continuer à ajouter des axes. En gros, c'est quatre composantes. Nous avons une composante qui s'occupe de la réouverture des voies et de leur entretien. ce que le projet ouvre et entretient pendant sa période. En fait, c'est pour laisser le temps au fonds routier de monter en puissance avec ses ressources et de couvrir progressivement l'ensemble des axes qui auraient bénéficié d'investissement. La deuxième composante concerne un renforcement institutionnel du ministère au niveau de la gestion du secteur routier et également au niveau de l'Office des routes dans la gestion des travaux en régie et autres, et un renforcement de capacités au niveau des cadres du ministère. Et dans cette optique, d'ailleurs, nous allons aider le ministère à mettre en place une stratégie de développement et d'entretien du réseau routier national. Donc tout ça, ça fait partie de la deuxième composante en termes institutionnels. La troisième composante qui est très importante et dont on ne parle pas souvent assez, c'est la composante qui concerne les impacts environnementaux et sociaux. On connaît la sensibilité de la RDC dans ce domaine-là, et le projet, ce qui est rare, pour des projets qui traitent la route en terre, à 15% de ces ressources qui vont pour corriger les impacts environnementaux et sociaux, avec des plans précis. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails.
Oui, mais vous faites quoi exactement sur le plan social?
Sur le plan social, d'abord, tous ceux qui sont touchés par l'exécution, donc des gens qui vendent au bord de la route ou bien qui avaient leur maison dans l'emprise, non seulement on les bouge, mais on les dédommage. Dès l'instant qu'ils étaient là, avant que le projet ne vienne ou que le gouvernement les a laissés s'installer là pour les bouger, il faut leur restituer ce qu'ils perdent de leur déplacement. Le principe de base, c'est que quelqu'un ne doit pas être appauvri par l'effet du projet. Il faut le ramener au niveau qu'il avait avant. Nous avons également une action soutenue envers le développement des peuples autochtones. Et dans la zone d'Ouvira-Kalemi, on les a par exemple aidés à avoir des terres. Il y a eu une cession de terres des peuples bantous vers les peuples pygmées. Et dans toutes ces zones-là, il y a eu près de 490 états qui ont été cédés par le droit coutumier avec le connaissance. Et donc, ces peuples autochtones peuvent cultiver. Et ils font également de l'élevage. Et il y a la sensibilisation sur le VIH-SIDA, sur la sécurité routière et également la gestion des aires protégées du pays qui sont dans la zone du projet. Nous aidons l'ICCN à avoir une approche global de gestion de ces aires-là. Voilà le gros titre. Un point que nous avons fait également, c'est que nous avons mis en place des postes de contrôle forestier et faunique. En fait, c'est pour contrôler les bois. Il ne faut pas que du fait de la route, on favorise le transport du bois illégal ou qu'on favorise le braconnage avec le commerce des espèces qui sont protégées.
Monsieur Alexandre Dosso, merci.
Notre nouvelle en province, plus de 20 000 déplacés des camps de Mongoté et Kaé autour de Kichanga, environ 80 km au nord-ouest de Goma. Vous l'avez compris, nous sommes dans la province du Nord Kivu, ont reçu une assistance alimentaire du PAM, Programme Alimentaire Mondial, pour 15 jours. La distribution a commencé le 29 mars et s'est achevée lundi 1er avril. Des petits pois, du riz, de l'huile végétale et du sel de cuisine. Voilà en quoi consistait cette aide alimentaire. Pardon, Jao Sende, chargé de communication du PAM Nord Kivu, parle ici des bénéficiaires de l'assistance. Il est au micro de Patrick Maki de Virunga Business Radio.
C'est une intervention, une assistance qui permet de couvrir les besoins alimentaires de ces déplacés pendant 15 jours. Ces déplacés ont vécu des moments difficiles en début mars et même récemment, juste à un jour avant le début des distributions. Il y a eu des affrontements et donc ils ont été forcés à quitter le camp. Pendant tous ces déplacements, ils ont été coupés de leurs sources de nourriture. Alors en plus des nouveaux venus dans le camp, qui sont autour de 800 000 personnes suite aux récents affrontements, il y a également un certain nombre de déplacés qui sont là dans le camp depuis 2008. Et ces personnes, la plupart sont des agriculteurs. Le premier souhait qu'ils expriment, c'est de pouvoir rentrer, notamment chez eux.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Robert Ndundula, Galula, médecin de formation, né à Likasi, au Katanga. J'ai fait mes études primaires à la GKMI. Après là, j'ai fait mes humanités au collège des frères Xavériens, à Likasi toujours, collège de Tazamie. J'ai fini là-bas en 84. Et puis de là, directement, je suis allé à l'université de Lubumbashi de 84 à 90, où je suis sorti médecin. Ça s'appelait docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Et après, j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai interrompu à un moment pour faire mes études de santé publique et d'épidémiologie avec l'Université de Bordeaux. Je travaille au sein de l'UNICEF depuis bientôt 4 ans. Pour l'instant, je suis le chef de bureau de l'UNICEF Bas-Congo. Le travail d'un chef de bureau, c'est un travail de coordonnateur. Le chef de bureau dans une province, il est le chef des programmes. Le chef de bureau, il a la charge du plaidoyer aussi, c'est-à-dire il doit parler du mandat de l'UNICEF, il doit parler de l'importance d'appuyer les investissements en faveur des droits des enfants. Ben, disons, avant l'UNICEF, j'ai travaillé 5 ans à UNFPA, d'abord ici à Matadi, de 2004 à début 2007, puis je suis parti à l'est du pays, de 2007 à 2009, où j'étais en charge du VIH-SIDA, appuyant la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, bien entendu. Mais avant ça, j'étais médecin-chef de district, c'était en Mbujimayi, et puis médecin-chef de zone pendant de longues années, et puis médecin-directeur d'hôpital pendant de longues années. Voilà, mais j'ai été aussi enseignant quelque part. J'aime beaucoup lire, bien entendu, maintenant Internet commence à me voler mon temps, que je prenais à lire beaucoup de livres qui touchent surtout au développement. Et sur la télévision, je suis beaucoup focus sur les documentaires qui touchent à l'environnement surtout. J'aime bien les questions d'environnement. Bien entendu, les Saintes Écritures me prennent beaucoup de temps aussi. Je les lis beaucoup. Les projets d'avenir, j'aime beaucoup la République démocratique du Congo. C'est un pays avec beaucoup de défis, avec beaucoup de potentiel. C'est de contribuer quand même au développement de ce pays. Ben, moi, je suis déjà dans un bon agenda avec les droits des enfants. J'aime bien les enfants, beaucoup même. Tant qu'il y aura encore des enfants qui auront de la souffrance, des enfants qui meurent pour des causes évitables, c'est l'unique projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaillerai encore des années et des années.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Joël Alouléa, je suis étudiant à l'USC Gombe. Une question à Ocha. Quelle est la situation humanitaire au niveau des Zongo à la suite du changement des pouvoirs intervenus en Centrafrique?
Merci Joël pour votre question. Alors voici la réponse de Sylvestre Ntumba Mudingai. Il est chargé de communication à Ocha.
Les développements de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine a fait qu'il y a eu un afflux de personnes vers les provinces de l'Équateur et Oriental. Pour parler particulièrement de Zongo, à la suite du changement de pouvoir, on a estimé environ 5000 le nombre de personnes qui avaient traversé ce week-end-là, mais il y avait déjà environ 25 000 personnes qui étaient identifiées au niveau de Zongo, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en même temps que en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés, était en train de faire le pré-enregistrement. On a eu les chiffres principalement de la DGM qui se trouve à la frontière et identifie les personnes qui traversent. Et le travail de pré-enregistrement que fait le HCR, c'est effectivement confronter ces chiffres-là avec les personnes qui sont effectivement sur le terrain. Et quand ce travail sera terminé, on vous donnera effectivement le nombre de personnes réfugiées qui se trouvent au niveau des Zongo. Et ces personnes ont de nombreux besoins auxquels la communauté humanitaire est en train de répondre actuellement, notamment le Programme alimentaire mondial avec des vivres et le HCR et leurs partenaires avec des articles ménagers essentiels.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À vos agendas, une date à retenir pour cette semaine, le 12 avril, elle est consacrée Journée mondiale de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une maladie neurologique chronique dégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne la perte des neurones et affecte ainsi le système nerveux. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimbwini. J'étais à la présentation avec l'assistance technique de Willem Lungamba. Nicole Ngaka en a assuré la supervision. Honoré Mitsenga la coordination et le reportage. Vous pourrez aussi suivre cette émission en rediffusion aujourd'hui même à partir de 19h03, heure de Kinshasa, 20h03 si vous êtes à Goma dans le Nord Kivu. Écoutez aussi cette émission sur notre site www.radiokapi.net. Vous avez une préoccupation par rapport à cette émission, contactez-nous au 082 30 76 630 ou laissez votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission. Encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À dimanche prochain et surtout, excellente journée dominicale à tous.